Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Mancien.
Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, cette semaine, nous allons laisser Boson du Périgord reposer en paix depuis le haut Moyen-Âge et nous allons nous intéresser à un petit manuel du toponymiste occitan. C'est un livre qui est de Jean Rigouste. Alors, il est publié par Nouvel Homme et au Périgord en 2022 et il a été publié avec l'aide du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Alors, il y a bien sûr une couverture avec beaucoup de lieux-dits qui sont cités. Et puis, Jean Rigouste, il est né en 1938 dans une famille carcinoise. Jean Rigouste a parlé l'occitan avec ses parents dès son enfance. Alors, il a agrégé de lettres classiques et titulaire d'un TEA de géographie historique. Il a enseigné le français et l'occitan dans l'Académie de Bordeaux. Auteur d'une méthode d'apprentissage par l'occitan, il est un des fondateurs de l'école occitane d'été. Il a animé divers cours d'onomastique et écrit des articles et chroniques de toponymie. Il est membre de la Société française d'onomastique. Alors, il y a un petit texte dans cette quatrième de couverture et qui s'intitule évidemment « Petit manuel du toponymiste occitan ». Alors, voici ce texte qui est repris d'ailleurs un petit peu au début de l'ouvrage. Alors, cet ouvrage est né de deux constats assez clairs. L'un est l'intérêt très fort pour tout ce qui touche à notre culture, à notre identité et entre autres pour l'étude des noms, de lieux et des personnes. Il est vrai que ces noms, chez nous, parlent en occitan et nous révèlent bien des choses sur notre pays et nos aïeux. L'autre constat est celui d'un problème. Il n'existe aucune formation officielle à l'onomastique. La grande majorité des chercheurs sont des autodidactes. Ils sont formés seuls avec l'aide de quelques livres, parfois de quelques conseils et de beaucoup d'expériences. Il a bien existé quelques cours dans certaines universités, mais ils n'ont pas duré longtemps. Et peu de personnes ont pu les suivre. Quant aux bons livres de toponymie, ils sont parfois difficiles à trouver et ils donnent plus souvent le résultat des recherches que la méthode qui a permis de les obtenir. C'est ainsi qu'est née chez l'auteur l'idée d'un manuel simple, élémentaire, destiné à ceux qui veulent se lancer sur les sentiers tortueux et sans fin de l'onomastique, d'un guide pour éviter quelques erreurs et quelques pièges, d'une aide pour gagner du temps, d'un conseiller pour leur rappeler la prudence indispensable. Ce petit livre est donc dédié à tous ceux qui s'intéressent à l'étude et à l'origine des noms de lieux des régions en langue occitane. L'auteur l'a voulu assez simple, réduit aux connaissances fondamentales et sans théorie savante. Il l'a également conçu en se rappelant que chaque jour, le trésor de ces noms anciens qui parlent encore notre langue diminue et se perd. Il y a donc du travail pour tout le monde et c'est vraiment urgent. Alors, ce petit livre, comme dit, on va retrouver d'ailleurs cette appellation à quand même 333 pages. Voilà. Alors, il y a, au début, il y a bien sûr des remerciements. Alors, voici le début de ces remerciements. La première version de ce manuel était pensée rédigée en occitan, mais des raisons diverses et des contraintes éditoriales ont voulu que l'édition définitive paraisse en français. Il faut réfléchir autant sans obstination, comme disait Molière. Les premières personnes que je dois remercier sont mes parents et mes grands-parents qui me parlaient chaque jour notre langue, qui m'envoyaient garder mes moutons, Olbo ou Oloprala, tant de noms de champs et de bois qui étaient les repères de mon petit univers. Puis je dois dire que tout ce que je dois à ceux qui ont assisté à mon atelier de l'école occitane d'été, que j'ai essayé d'initier la toponymie pendant plus de 45 ans, un long bail, et aussi à mes étudiants d'université du temps libre de Bergerac, qui pendant 15 ans m'ont fait travailler, rechercher, écrire des fiches dont l'ensemble forme le noyau de ce petit livre. Voilà, alors, Olbo, ils vont garder les moutons au beau, c'est au bois, et Oloprade, une prade en langue sarladaise tout au moins, c'est un grand prix, comme une oprade. Voilà. Alors, il y a évidemment un autre texte qui reprend pourquoi ce petit livre. Comme je dis, petit livre qui a quand même 333 pages. Alors, voici ce que nous dit pourquoi ce petit livre, commençons par deux constats assez clairs, l'un est l'intérêt très fort pour tout ce qui touche à notre culture, à notre identité et entre autres pour l'étude des noms de lieux et de personnes. Il est vrai que ces noms chez nous parlent en occitan et nous révèlent bien des choses sur notre pays et nos aïeux. De nombreux jeunes chercheurs essaient de les expliquer du mieux qu'ils peuvent et de promouvoir leur travail. Bravo! Il n'y a jamais assez de vocation, car comme je le dis souvent, l'onomastique n'est pas une maladie contagieuse. Notre constat est celui d'un problème, il n'y a aucune formation officielle à l'onomastique. La grande majorité des chercheurs sont des autodidactes. Ils se sont formés seuls avec l'aide de quelques livres, parfois de quelques conseils et de beaucoup d'expérience. Il a bien existé quelques cours dans certaines universités, mais ils n'ont pas duré longtemps et peu de personnes ont pu les suivre. Quant aux bons livres de toponymie, ils sont parfois difficiles à trouver et ils donnent plus souvent le résultat des recherches que la méthode qui a permis de les obtenir. C'est ainsi qu'est née l'idée d'un manuel simple et élémentaire destiné à ceux qui veulent se lancer sur les sentiers tortueux et sans fin de l'onomastique, d'un guide pour éviter quelques erreurs et quelques pièges, d'une aide pour gagner du temps, d'un conseiller pour leur rappeler la prudence indispensable. Les toponymistes ne sont pas des happy guessers, heureux d'avoir trouvé du premier coup leur explication de quelques noms obscurs. Ils ne sont pas non plus des chercheurs qui se bornent à l'étymologie sans aller plus loin, sans chercher à faire vivre la toponymie. Alors bien sûr, ça, c'est tout un travail qui est dédié aux chercheurs et même des chercheurs obstinés. Alors, on va continuer un peu cette lecture et pourtant, les étudiants, j'en connais beaucoup, sont sûrement passionnés, comme je disais, pleins d'enthousiasme et de joie des découvertes et leur travail qui s'améliore peu à peu n'est pas sans mérite, pour autant qu'il soit mené avec prudence et probité intellectuelle. Plus nous aurons de relevés précis et fiables, plus nous aurons sauvé des espaces de notre patrimoine, plus nous aurons d'éléments pour travailler sur ces toponymes et mieux les comprendre. Ce petit livre leur est donc dédié. Pour cela, je l'ai voulu assez simple et réduit aux connaissances fondamentales, sans théorie savante, ni cours de phonétique historique ou de latin médiéval, par exemple. Il existe de bons livres pour cela. Vous saurez les trouver si vous avez besoin dans leur index et leur bibliographie. Vous découvrirez toutes les pistes utiles. Si j'avais dû inclure toutes ces connaissances universitaires, ce livre serait devenu un énorme pavé. Il y a certainement des manques dans ce manuel. Si vous les repérez, vous êtes en bonne voie. Quand vous les aurez comblés, vous serez devenu un bon toponymiste. Si vous qui vous intéressez à la recherche anonomastique, Chova d'Entra, et souvenez-vous que vous pouvez même, sans être bardé de diplôme, faire un brutil en travaillant des gens seulement sur votre territoire. Et c'est le travail du toponymiste, évidemment. Alors souvenez-vous aussi que ce travail ne peut pas attendre. Chaque jour, le trésor des noms anciens qui parlent encore notre langue diminue et se perd. Il y a du travail pour tout le monde et il est vraiment urgent. Alors il y a un texte en occitan, Chova d'Entra. Alors, Chova d'Entra, c'est lorsque quelqu'un vient à la maison, tape à la porte, et on ouvre et on lui dit, Chova d'Entra, finissez, en réalité, ça veut dire finissez d'entrer, ce qui est une invite, évidemment, à pénétrer dans la maison. Alors, il y a l'onomastique et toponyme. Alors, l'onomastique, dérivé du grec, le nom, est la science qui étudie les noms propres. C'est une science humaine, donc pas une science exacte, mais elle est bien pourtant une science à part entière. Alors, sur la page d'avant, il y a l'onomastique Sciences Po. Alors, il y a une petite citation, la plus secrète des sciences humaines et la plus concrète des sciences abstraites, et c'est signé Charles Camproux. Voilà, alors, il y a bien sûr un petit schéma. Alors, il y a le domaine de la sociologie, alors il y a la sociolinguistique, l'éthiologie. Et puis, il y a le domaine linguistique. Alors, il y a la linguistique comparée, la phonétique, la sémantique. Et puis, il y a évidemment l'histoire, la géographie. Et tout ça forme l'onomastique. Alors, je vais reprendre un peu le texte. Onomastique et toponymie, c'est une science pont qui travaille à la fois dans le temps et dans l'espace, le temps avec l'histoire, la grande, et aussi celle de l'occupation des sols. parce qu'il nous faut répondre à des questions comme celle-ci, qui a nommé ce lieu, à quelle époque, dans quelles circonstances, et il ne faut pas oublier la généalogie, beaucoup de noms donnés, ici viennent en majorité de noms d'hommes et de familles de l'ancien régime. L'espace, parce que nous devons étudier le lieu dans son environnement, de quel terrain s'agit-il, quelle était la valeur agricole ou en de ces terres, il y avait de l'eau, il y avait-il de l'eau, et sans oublier la botanique, les bois, la végétation sauvage et bien sûr les cultures. Un nom de lieu est proposé par une personne, un groupe, un pouvoir, mais il doit être accepté par tous dans une sorte de consensus social. Il faudra donc s'intéresser à la société où vivaient les nommeurs des lieux, pourquoi tel nom a-t-il été donné à ce lieu. Ce sera l'étude des motivations qui nous fera connaître la façon locale de baptiser les lieux et même parfois d'en expliquer tant bien que mal le sens. Une chose est sûre, les Occitans sont intéressés par cette recherche et aiment dire, sinon ils ont envie de leur donner un sens, ils sont heureux de découvrir celui que nous pouvons parfois leur révéler, et le contact avec le terrain est essentiel, comme le dit Jean Astor, toponymie n'est pas une science hors sol. Voilà, alors, il y a bien sûr une suite, mais bien des langues ont été parlées sur nos terres depuis les langages inconnus de la préhistoire qui nous ont laissé que quelques fossiles linguistiques jusqu'au français et à l'anglais. Aujourd'hui, en passant par le latin, pas celui de Saint-Cyran, et les langues germaniques, cela va nous poser trois problèmes. Déterminer la langue qui a créé le toponyme, étudier les variations de sa forme au cours des siècles et vérifier si le sens du toponyme n'a pas varié avec le temps, comme il varie aujourd'hui d'une région à l'autre. Alors nous pourrons alors proposer une étymologie avec prudence, toujours évidemment, et bon sens, lien occitan, sans oublier que ce sont des paysans qui ont nommé les lieux où ils vivaient, sans sauter sur la première conclusion évidente, et quand cette recherche en amont sera terminée, mais a-t-on jamais vraiment terminé, il nous restera à faire savoir, faire connaître nos recherches et diverses façons de faire revivre ces toponymes et ainsi sauvegarder et mettre en valeur une part inestimable de notre patrimoine. C'est vrai que c'est toujours très intéressant de savoir pourquoi on appelle tel lieu, on verra ça peut-être la semaine prochaine. Voilà. Alors, il y a bien sûr un autre chapitre, un peu d'histoire, l'onomastique est né en tant que science vers la fin du deuxième siècle, beaucoup de savants étaient déjà intéressés au nom de lieux et de personnes à toutes les époques et a construit peu à peu ses méthodes, son vocabulaire, en s'éloignant quelque peu de la linguistique qui, de toute façon, regardait un peu de travers ses noms propres, difficiles à classer et analyser. En 1860, un énorme travail a été entamé, la rédaction des dictionnaires topographiques de la France, en raison d'un par département. Alors c'est une œuvre qui est encore inachevée, donc si vous sentez une âme d'onomastique, eh bien vous pouvez l'achever. Alors, preuve que l'intérêt des chercheurs pour ce domaine nouveau, le mot onomastique apparaît en 1868. Alors, il y a bien sûr toute une suite à ce chapitre, et il y a des domaines, il y a des énigmes, ça on verra ça la semaine prochaine, et puis dans les autres domaines, on pourra trouver par exemple des personnes qui portent un nom de lieu, ville, pays d'origine, particularité d'une maison de terre, ou de terre, des lieux qui portent des noms de personnes, fondateurs, possesseurs, découvreurs, des animaux et même des outils qui portent les noms de personnes. On voit que beaucoup de domaines de recherche ont des noms qui s'achèvent en onymie. Il y a d'ailleurs des chercheurs qui en forgent toujours de nouveaux, anémonymie pour les vents, schématonymie pour les produits que l'on peut acheter, etc. Vocabulaire technique réservé aux travaux et recherches assez pointues. Voilà, alors, il y a bien sûr une suite qu'on donnera, comme je disais, la semaine prochaine. L'onomastique étudie les noms propres de toutes sortes, en dehors des noms de lieux et de personnes. Il reste bien des domaines qui ne sont guère explorés. La liste qui suit, et qui est sûrement incomplète, vous donnera une idée de la variété et de la richesse de ces domaines. et qui sait vous donnera peut-être à quelques chercheurs l'idée d'entreprendre des études originales. Pour chaque entrée, quelques exemples sont donnés, certains noms de cette liste ont pu faire des traces dans la toponymie. Les notes renvoient à une courte bibliographie spécialisée à la fin de ce chapitre. Voilà. Eh bien, pour aujourd'hui, j'en ai terminé. Mais la semaine prochaine, on verra un peu mieux ce que c'est que la toponymie. Voilà, et bien, je vous souhaite une bonne semaine, qui, je crois, sera pas trop froide. Voilà, à la semaine prochaine, au revoir.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.